France Inter. Le 7-10.
Et Léa, ce matin, vous recevez un journaliste, vidéaste, humoriste qu'on aime beaucoup ici.
Bonjour David Castello-Lopez.
Bonjour Léa, bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin.
Bonjour,
si vous étiez
vous.
Un pays, un écrivain et un personnage historique, vous seriez qui? Vous seriez quoi? Alors un pays d'abord.
Un pays, je dirais que je serais, peut-être pas vraiment un pays, mais le Tessin. La partie italienne de la Suisse, parce que il y a ce côté, ils ont le côté suisse, c'est-à-dire ça marche, ça fonctionne, ils sont fiables, mais en même temps il y a un petit peu de l'exubérance italienne qui vient tempérer tout ça. J'aime bien.
Ça voilà. Vous ressemble quoi.
J'essaie.
Le Tessin. Un écrivain.
Dur à dire, mais je pense que si on peut choisir ce qu'on veut, parce qu'on peut choisir ce qu'on veut. Je sais pas si ça me correspondrait, mais en tout cas, je pense que j'aimerais bien être un de ces écrivains qui fait de la recherche fondamentale, vous voyez, qui cherche, qui sonde l'âme humaine des tréfonds. Proust. Ça veut pas dire que je suis pas, mais tant qu'à choisir ce qu'on veut. Proust, Gracq, ouais. Philippe Roth.
Pas mal. Ouais. Et un personnage historique.
Je pense que je prendrais, encore une fois, si je peux prendre ce que je veux, je prendrais
un Suisse.
Je prendrais un ingénieur. Mais genre qui a un petit sens de l'esthétique, genre Eiffel.
Ah, pas mal. Mais c'est pas mal. Ça vous ressemble pas mal. Votre écrivain préféré, je pensais que vous alliez le prendre lui. C'est le Polonais Witold Gombrowicz qui disait plus c'est savant, plus c'est bête. Êtes-vous d'accord avec lui ou vous diriez l'inverse? Plus c'est bête, plus c'est savant.
Gombrowicz, je l'aime beaucoup, mais il fait quand même des fois des petites phrases comme ça, on comprend pas très bien ce qu'il veut dire. oui, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Parce que non, moi je dis plus c'est savant quoi. Le connaissant, je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'il aime pas les gens qui sont grandiloquents, qui pontifient. Et c'est-à-dire que ces gens quand ils parlent, on sent qu'ils sont pas en train de vous transmettre une information, ils parlent pour dire des choses qui leur donnent une bonne image d'eux-mêmes à eux-mêmes. Et je pense que c'est d'eux qui parlent, et si c'est ça qu'il dit, je suis tout à fait d'accord avec lui.
Ouais, je pense que ça participe de votre réussite, David Castello-Lopez, que vous nous racontez ce matin, le côté un peu intello et le côté pas pontifiant. Quel parcours quand même depuis vos débuts comme journaliste de donner à l'agence Kappa, puis chef du service vidéo au Monde. Vous avez été auteur pour Logographie, vous avez fait des petites vidéos et aujourd'hui, donc, monsieur est humoriste. Le meilleur humoriste de l'année dernière. Vous a bombardé le Parisien, carrément.
Oui.
Vous êtes une fois par semaine sur notre matinale du 7-10 et avec votre spectacle authentique, vous remplissez des salles comme des petits pains. Je ne sais pas si l'expression est juste. Vous serez à l'Olympia le 6, 7, 8 juin de cette année, mais c'est déjà complet, pas la peine de se ruer, c'est complet. Le Grand Rex le 15 octobre prochain, complet également. Mais depuis hier soir, les billets sont en vente pour le Zénith de Paris le 13 juin 2025. Oui. Ensuite, vous serez en tournée partout en France. Le Zénith, carrément.
Ouais.
Vous savez, c'est combien de places?
C'est 5000 places, je crois.
Non, c'est 6800 places.
Ah oui. Alors, je pense que c'est 6800 pour les concerts où il y a des gens debout.
Ah.
Et généralement, les spectacles d'humour, on met pas les gens debout. Parce
donc,
que
on
enlève quelques machins, donc c'est un petit peu moins.
5000 places.
Ouais.
Pour quelqu'un qui était terrorisé à l'idée de monter sur scène.
Ouais. Mais en fait, il reste que le Zénith, c'est terrorisant, mais c'est, en fait, ce que les gens, peut-être, ils voient pas, souvent, c'est que c'est progressif. Et donc, en fait, d'abord, on commence par 25 places, puis 50, puis 100. Et à chaque fois, il y a un petit choc, mais on passe pas de rien du tout à zbim le Zénith. Et donc, c'est ça qui fait qu'on s'y fait. Il y a une petite peur, mais elle est incrémentielle, comme on dit. Voilà.
Mais vous, elle est. Je vous imagine la veille du Zénith, c'est quand même. Déjà, l'Olympia, c'est chaud, mais.
Oui, alors, mais en fait, avec la peur et le trac, il y a un truc qui est. Moi, j'ai un peu. Je pense que j'ai un trac qui est rationnel. C'est-à-dire, j'ai peur quand il faut avoir peur. C'est-à-dire, quand je suis pas tout à fait sûr de ce que je vais dire, s'il doit y avoir de l'improvisation, si j'ai pas tout à fait assez répété. Mais là, le spectacle, je le connais. Et en fait, c'est quoi le pire truc qui puisse se passer? Bon, il y a une blague qui fonctionne un peu moins bien qu'une autre, etc. Et ça m'est déjà arrivé. Et on n'en meurt pas. Et donc, voilà.
Si le succès est souvent un malentendu, comment vous expliquez le vôtre? Comment vous expliquez que soudainement, il y a quelques mois, parce que c'est vrai que vous faisiez jusque-là des petites vidéos qui avaient un petit peu de succès, mais c'était pas. Et soudainement, ces derniers mois, ce spectacle authentique.
Oui.
Le blast, comment vous l'expliquez? C'est votre côté à la fois journaliste et humoriste, c'est le côté venez vous marrer mais vous apprendrez des choses également.
Je pense qu'il y a un petit peu de ça. C'est quand même extrêmement dur de répondre à cette question parce que ça surprend. Je pense que j'aime les gens qui disent ouais, moi je m'attendais à ce succès évidemment. Bien sûr, ça m'était dû. Non, je ne sais pas. Il y a une transition qui doit se faire. Je pense que c'est pour beaucoup de gens qui ont une petite notoriété sur Internet. Est-ce que les gens qui vous aiment bien sur Internet, ils seront disposés à payer un petit peu d'argent pour venir vous voir en vrai?
Ouais.
Et c'est cette transition qu'il faut faire, et jamais on sait si on va réussir à la faire. Et il se trouve que là, dans une certaine mesure, ouais, je pense que je l'ai faite et ça me fait plaisir. Ouais.
Et ça vous fait plaisir, et qu'est-ce que ça répare, cette petite réussite? Parce que vous dites, j'ai quand même une petite réussite, qu'est-ce que ça répare chez vous?
Bah, je pense que je suis quelqu'un qui a glandé très longtemps. J'ai pas du tout fait comme mes amis comme beaucoup d'amis à moi qui ont fait des études de malade. Mon meilleur ami au lycée, c'était Clément Beaune.
Oui, alors ça c'est très drôle. J'ai vu ça.
Ouais.
Vous étiez amis à la mort avec l'ex-ministre des
transports,
Clément Beaune,
qui est toujours député. Et vous êtes
toujours potes?
Oui, on est toujours potes. On est toujours potes. Et voilà, Clément, c'est un exemple de type. Genre, moi j'étais là un peu au lycée. Je vais déconner. Lui, il travaillait.
Il voulait être ministre, quoi.
Mais on l'appelait Clément Président. On l'appelait Clément Président en terminale. Et c'était le meilleur. Et en plus, il était un peu sympa, drôle et tout. Enfin, c'était une sorte de perfection un peu énervante. Et ensuite, lui, prépa, ENA, tout ça. Et moi, j'étais là. J'avais un groupe de musique vaguement glandeur. Et puis, donc ça répare le fait que j'ai beaucoup glandé.
Voilà, vous avez beaucoup glandé. Vous avez fait des petites vidéos, votre petit succès sur Internet. Et puis un jour, en 2021, soudain, en plein Covid, vous sortez cette vidéo-là.
Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, les affaires marchent en ce moment.
Je possède des thunes,
ouais.
Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas,
non.
Les affaires marchent en ce moment.
Ouais, et du coup
j'achète des trucs, et les gens voient que j'ai des trucs, ils se disent putain il a des trucs, et moi aussi je voudrais des trucs. Du coup, j'achète des trucs.
Alors, vous avez acheté beaucoup de trucs. Vous avez eu plein de thunes.
Alors, il y a un petit paradoxe, c'est que cette chanson a eu quand même pas mal de succès.
Mais c'est pas mal de succès. C'est que cette chanson, il y a un avant, un après dans votre vie d'avec Castello Lopez. C'est-à-dire que c'est 100 millions de vues. Et dans tous les collèges de France, les mômes chantaient j'ai des thunes, j'achète des choses.
Voilà. Et le petit paradoxe, c'est que ça, en soi, ça ne m'a rapporté rien. Zéro euro. Et voilà. Alors, depuis, ça va donner des opportunités qui peut-être vont donner un petit peu d'argent.
Oui.
Mais la chanson en elle-même, rien. Voilà, c'est zéro.
Et on peut expliquer, pour le coup, pourquoi celle-là a marché? Parce que ça parle d'argent
Je pense qu'il y a peut-être un truc, ça parle d'argent, et l'argent, vraiment, je pense que les gens... Mais c'est comme le sexe, les gens, ils aiment beaucoup qu'on parle d'argent. Et contrairement au sexe, ce n'est pas censuré sur les réseaux sociaux, ça ne descend pas dans les algorithmes. Donc je pense qu'il peut y avoir de ça. Mais j'ai été surpris. Moi, au départ, c'était une chanson de 15 secondes que j'ai fait pour expliquer un principe économique qui s'appelle le principe des biens positionnels, les biens qu'on achète, non pas pour leur fonction, au sens où on achète une chaise pour s'asseoir dessus, mais les biens qu'on achète pour dire au monde entier qu'on possède plein de thunes. 15 secondes, elle a été mise sur TikTok, et là, explosion, et on fait j'en ai fait 25 d'autres chansons avant, pourquoi celle-ci? Et ça explose, et alors vraiment c'est inexplicable, mais c'est très agréable.
Et depuis, tout le monde pense que vous êtes suisse, parce que vous l'avez tourné autour du lac Léman, ou
parce que j'ai fait pas mal de vidéos pour la Suisse, et il y a eu des petites ce qui explique des choses sur la Suisse, et donc les gens ils croient que
vous êtes suisse, alors que rien à voir.
0% suisse, rien du tout, quoi.
On va y revenir. Quittez le journal Le Monde a été une torture pour moi, vous avez dit. Pas de retour en arrière, vous ne vous imaginez pas à un moment revenir vers le journalisme sérieux, et je mets plein de guillemets sérieux.
torture, non, c'est un petit peu exagéré, mais c'était la fin de quelque chose, et c'était un petit peu difficile de quitter mon poste de chef de service, mais c'était... C'était non, je pense pas que j'ai envie de revenir vers le journalisme complètement sérieux. J'en vois pas la nécessité. Je pense qu'on peut tout à fait dire des choses précises et voire profondes en faisant aussi des blagues. Donc j'ai pas besoin de revenir au Monde.
Alors ce spectacle authentique. Pourquoi authentique? Vous n'aimez pas ce qui est faux, ce qui sonne faux, ce qui est fake? Qu'est-ce que vous trouvez l'époque particulièrement fausse, inauthentique?
Je sais pas si l'époque est particulièrement inauthentique. Quand on voit dans le Misanthrope de Molière, déjà, il se fout de la gueule des gens qui sont faux comme les gens d'aujourd'hui peuvent l'être. Ce qu'il y a, je pense, aujourd'hui, qui est nouveau, vraiment entièrement nouveau, c'est que, en fait, c'est dur. Plus il y a de gens qui nous regardent, plus c'est dur d'être vrai, parce que quand on dit quelque chose, il peut y avoir des conséquences, les gens peuvent cesser de vous aimer, et il se trouve qu'on vit dans une époque où on est beaucoup plus regardé individuellement que les époques d'avant, parce que on est sur les réseaux sociaux, et que tout à coup on dit quelque chose, et là, bim, tout le monde vous dit, ah ben non, t'as dit ça, c'est pas bien, ou alors j'aime pas ton pull, et donc ça pousse à la conformité, ça pousse à ne pas être soi-même, et donc je pense que oui, de ce point de vue-là, on est dans une époque qui crée beaucoup de fausseté.
Et vous avez un radar pour repérer les vrais gens et les faux gens. Parce que c'est ça le spectacle.
Ça, c'est les vrais gens. Ça, c'est une expression utilisée par beaucoup par les hommes politiques, par Emmanuel Macron notamment, qui parle des vrais gens. Il y a un truc très spécifique dans l'expression vrais gens. On veut pas dire n'importe quoi quand on dit vrais gens. On veut dire les gens qui sont pas riches, qui habitent pas à Paris et qui n'ont pas de notoriété. Avec cette idée un tout petit peu étrange que, enfin, en tout cas, difficilement, disons, explicable que l'épreuve et la difficulté contiennent plus de vérité que le confort et la richesse. C'est-à-dire que la réalité de quelqu'un qui gagne pas beaucoup d'argent, elle est plus réelle que celle de Kim Kardashian, je sais pas pourquoi.
Bah c'est ce que j'allais vous dire, selon ce filtre-là, Kim Kardashian, c'est une vraie gens ou c'est une fausse
gens? Ah, c'est une fausse gens de chez faux gens Saras.
Bah si oui, parce même... que...
oui, oui.
Même chose pour Nabila, faux gens.
Faux gens complètement.
Faux gens.
Ça peut être tempéré par la souffrance. C'est-à-dire que si on souffre beaucoup, si on a plein d'argent et qu'on souffre, qu'on n'a pas de jambes, par exemple, ça peut
on est un peu vrai. On est un peu vrai gens. Voilà, et vous êtes un vrai gens ou un faux gens?
Je pense que je suis pas particulièrement authentique. Ce que j'ai peut-être de plus, parce que c'est que j'ai beaucoup réfléchi à la question, donc je suis peut-être un petit peu plus lucide que la moyenne sur mon manque d'authenticité. Voilà.
Est-ce qu'il y a un moment dans votre vie où vous êtes vraiment authentique? Par exemple, chez le psy, est-ce que vous êtes vraiment authentique ou vous mentez un peu?
Alors, j'ai déjà vu des psys. Je pense que j'ai pu avoir ce truc. Je pense que l'idée d'aller voir un psy et de lui mentir, vraiment, ça n'a aucun sens. Ce que j'ai pu voir, c'est genre, tiens, j'ai dit ce truc-là, je suis sûr qu'elle va trouver que je suis fin, intelligent. Donc, je suis un peu poseur, je pense, même chez le psy. J'espère que ma psy va me trouver cool.
Vous dites le seul pouvoir de l'être humain, c'est de faire genre. On passe notre temps à faire genre. On est intelligent. C'est intéressant ce qu'on dit.
Mais tout à fait. Mais ça, c'est que le principe de l'authenticité, c'est quelque chose qui concerne uniquement les êtres humains. Jamais vous demanderez si un saumon est sincère. Vous voyez, ça n'existe pas. Nous, on a conscience de nous-mêmes, donc on peut dire des choses qui ne correspondent pas à ce qu'on pense. On peut dire à quelqu'un je suis content pour toi, alors qu'en fait, on a envie qu'il décède. Voilà.
À chaque fois dans votre spectacle, tous les soirs, vous dites je suis juif et portugais.
Ouais.
Immunité totale.
Immunité totale parce
qu'est-ce qui donne plus l'immunité, à votre avis, juif ou portugais?
Bah alors, les blagues sur les portugais, c'est triste de le dire, mais c'est comme ça, elles sont assez inoffensives. C'est rare qu'on vous reproche une blague sur les portugais. En revanche, on peut beaucoup vous reprocher une blague sur les juifs. Et c'est vrai que ça aide énormément, de ce point de vue-là, de l'être moi-même. Ouais.
Qu'avez-vous de portugais en vous?
J'ai un ami qui dit être portugais, c'est regarder la mer pendant des heures en se disant que c'était mieux avant. Voilà. Et quand on est à Lisbonne, c'est vrai qu'on passe à Lisbonne, on se dit waouh, c'est vrai que c'est un pays qui a l'air d'avoir été très puissant, mais il y a eu hyper longtemps, plus du tout maintenant. Et j'ai un peu ce truc, ouais, cette sorte de mélancolie vague et permanente, ouais.
Qu'est-ce que vous avez de français en vous?
C'est dur de dire ce que c'est français. Alors encore une fois, je sais pas qui c'est qui dit ça, mais ça m'avait marqué, qui disait que l'esprit français, c'était la profondeur dans la légèreté. Alors je dis pas que je suis profond dans la légèreté, mais en tout cas ça m'a beaucoup marqué. J'ai l'impression que c'est vrai ça sur la France, surtout sur le 18e siècle français, genre Fragonard. Je pense qu'en France on a conscience qu'on peut dire des trucs un peu intelligents sans forcément être chiant. Voilà.
Qu'est-ce que vous avez de suisse en vous? Rien déjà.
Non.
Tout le monde pense que vous êtes suisse.
Vraiment génétiquement.
Moi j'ai vraiment passé 5 ans. Imaginez que vous étiez suisse, ouais, vous êtes humoriste suisse. Je disais le suisse.
Mais
là.
Oui, il est pas du tout suisse. Non, rien dans mon sang. J'adore quand j'essaye d'être fiable. J'adore les gens fiables. J'ai de l'admiration pour les gens qui sont à l'heure. Et c'est vraiment le cas en Suisse. Et donc j'aimerais en tout cas penser.
Et de juif. Qu'est-ce que vous avez de juif en vous?
Votre
mère déjà.
Pas mal de choses. Ma mère est née en 1943. Un quart de ma famille du côté de mon grand-père est morte dans les camps. Je m'appelle David parce que mon oncle s'appelait David et il est mort à Auschwitz. Et j'ai grandi avec ça, avec le poids de tout ça dans ma famille. C'était pas un détail.
On vous racontait que c'était présent tout le temps.
Mais c'est présent, c'est présent tout le temps. Et c'est quelque chose. On peut pas s'en extraire. Donc oui, il y a ça de et ça restera. Jusqu'à la fin, quoi.
Et vous arrivez même à en rire sur scène avec cette liste alternative à la liste de Schindler que vous avez imaginée si Schindler était portugais.
Oui.
Voilà.
Si les nazis avaient été portugais, la liste de Schindler, ça ne se serait pas appelé la liste de Schindler. Ça se serait appelé
la liste de José. L'histoire d'un homme qui a dit non au totalitarisme.
Et toi, espèce de petit houppin. Juveto, tu é. Arrêté, monsieur le SS. Certo, c'est un petit houppin, mais c'est également un être humain.
Tu as raison. Merci, monsieur José. Vous êtes un bienfaiteur du peuple juif.
La liste de José. Prochainement sur vos écrans.
Parce que les nazis n'auraient pas parlé allemand, ils auraient parlé français avec l'accent portugais.
David Castello-Lopez, vous dites la chose la plus authentique de l'existence, c'est la mort, qui est votre angoisse absolue, fondamentale. La mort, pour moi, c'est une pensée sur trois.
Ouais.
C'est pas mal, ça, une pensée sur trois.
Je crois que ça vient de loin de Shakespeare. Il y a un personnage de Shakespeare qui dit une pensée sur... Ben oui, pareil.
Une pensée sur trois.
Ouais.
Comment on affronte la peur de la mort et la disparition de ses proches?
La mort, en fait, c'est l'infini, donc c'est très très dur de gérer ça, parce que nous, on n'a pas accès à l'infini en tant que vivant. Faut juste accepter que c'est l'infini, on n'y aura jamais accès, c'est comme ça. Mais moi, je m'en sors en voyant tout ce qu'il peut y avoir de rigolo dans la mort. Il y a toujours des trucs logistiques dans les enterrements, par exemple. Je sais pas, des trucs qui tombent par terre, des bruits incongrus, des trucs qui fait qu'on se marre pendant les enterrements. Et voilà, c'est comme ça qu'on l'affronte avec des blagues.
Ou le choix du cercueil.
Ou le choix du cercueil.
Vous avez déjà fait ça, mais...
Oui, tout à fait.
C'est presque drôle. On va terminer avec les impromptus. Alors, ce ne sont pas mes questions que je vais vous poser, parce que dans votre autre métier, sur Combini, je vais les citer, vous faites une émission, vous recevez des gens, où ça s'appelle Small Talk, et à la fin, vous lui reposez les questions les plus... En anglais, vous n'aimez pas les anglicismes, mais je vois, les plus what the fuck possibles et imaginables, les plus décalés, les plus drôles. Alors, je vais vous répondre en une minute. Vous êtes venu par quel moyen de locomotion ?
Je suis venu en taxi.
Vous vous êtes déjà pris des râteaux ?
Oui, et frontaux. Est-ce que tu veux ? Non.
Voilà. C'est quoi votre position sur le shit ?
Je trouve que c'est pas bien, j'aime pas ça, j'aime pas en fumer. J'ai rien contre les gens qui en fument, mais je trouve ça pas très bien.
Si vous deviez sauver un seul raccourci clavier, ce serait quoi ? Ça, c'est pour Nicolas.
Pomme A. Tout sélectionné.
Ah.
Voilà. Vous seriez entré dans la résistance en 1940, en 1942, en 1945 ou jamais ?
Alors je pense que...
Celle-là, vous la posez. Hein.
Celle-là, je la pose.
Je tiens à le dire.
Je la pose.
Je me désolidarise de cette question.
Vu mes origines, je pense que la nécessité aurait fait loi et que ça aurait été très tôt. Voilà, 1940.
Est-ce que vous avez un talent caché de merde ?
Ah, bien sûr. Talent caché de merde. Je sais faire plein de trucs de merde. Je sais faire ça, par exemple. Voilà, ça sert à rien. Mais
et pour terminer, David Castello-Lopez, si je vous dis belle journée, vous me foutez une baffe ?
Non, pas du tout.
Vous détestez l'expression et vous m'en voulez depuis 10 ans parce que je termine les interviews par belle journée.
Ce que je dis, c'est que ça part d'un bon sentiment de dire belle journée. C'est parce que bonne journée, qui va vous croire quand vous dites bonne journée ? C'est complètement, c'est usé comme expression. Alors que vous voulez dire qu'on vous nous souhaitez vraiment une bonne journée, tellement bonne qu'elle est belle. Et je trouve ça très beau. Voilà.
Authentique, au Zénith en juin 2025, parce que l'Olympia, dans 2 semaines, c'est déjà complet dans 1 mois.
Ouais.
La billetterie est ouverte, dépêchez-vous.
Bordeaux, Poitiers aussi.
Ah ben oui, bien sûr, partout. Vous serez partout à partir de cet été, notamment. Merci et belle journée.
Merci beaucoup.